Jesus Christus.
Les évêques de Guinée reçus ce matin par le pape au Vatican dans le cadre de leur visite ad limina. Ils ont pu échanger avec François sur de nombreuses thématiques comme le dialogue interreligieux. Nous entendrons le président de la conférence épiscopale guinéenne au début de ce journal. Alors que les combats se poursuivent entre Israël et le Hamas, le Qatar mobilise toujours son énergie pour les maintenir à la table des négociations. Une mission difficile pour l'Émirat qui semble avoir perdu de l'influence au fil des mois, nous racontera notre correspondant régional. À la une de ce journal également, les pays scandinaves qui annoncent la création d'un couloir de transport militaire commun en Arctique pour contrer les menaces de la Russie. Et puis nous irons en Allemagne où l'industrie automobile s'inquiète des possibles sanctions chinoises en représailles à la hausse des taxes européennes sur les véhicules électriques. Le ministre allemand de l'économie est arrivé à Pékin ce vendredi.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet.
Bonsoir. Le pape François a reçu en audience ce matin les évêques guinéens à l'occasion de leur visite ad limina au Vatican. À l'occasion pour, lors de leur échange, d'aborder de nombreux sujets. Parmi eux, le dialogue interreligieux avec l'islam, majoritaire en Guinée, mais également le lien des évêques avec les prêtres. On en parle ce soir avec Mgr Raphaël Bala Guilavogui, le président de la conférence épiscopale de la Guinée.
Nous avons abordé la situation de l'Église de Guinée, la relation avec les musulmans, puisqu'ils sont les majoritaires, et ensuite la relation avec les prêtres. La relation, par exemple, avec les musulmans, on peut dire que c'est au beau point, parce que nous n'avons pas un islam radicaliste en Guinée. Nous avons même donné l'exemple de certains des évêques qui ont une famille qui est mixte, j'allais dire, c'est-à-dire avec beaucoup de parents qui sont musulmans. Donc ça se passe bien. Et mieux, nous avons mis l'accent sur le fait que l'État travaille beaucoup avec les religieux. Le pape nous a dit de continuer dans le sens d'une collaboration, de manière à ce que les relations entre musulmans et chrétiens, que cela puisse favoriser la bonne convivialité dans le pays. Le Saint-Père nous a recommandé d'être très proche de nos prêtres, parce que le prêtre a besoin de sentir son évêque proche de lui pour le rassurer, mais aussi pour lui permettre de faire un apostolat qui soit efficace.
Mgr Raphaël Bala Guilavogui, le président de la conférence épiscopale guinéenne, au micro de Françoise Niamien. À la une de l'actualité africaine également, le Kenya, où la grogne contre la hausse des taxes annoncée par le gouvernement se poursuit. Depuis le début de la semaine, les manifestations se sont multipliées à Nairobi, la capitale, mais élargi hier à d'autres villes du pays. Hier soir, un manifestant a été tué par balle alors qu'il tentait de fuir la police, selon Amnesty International. Un appel à la grève générale a été lancé pour mardi prochain. Après l'Espagne, l'Irlande et la Norvège, il y a quelques semaines, l'Arménie décide à son tour de reconnaître l'État de Palestine. Erevan désire sincèrement l'avènement d'une paix durable dans la région, selon le ministère arménien des Affaires étrangères, qui rappelle vouloir l'instauration immédiate d'une trêve, une mesure qui n'est pas au goût d'Israël, sans surprise, qui a annoncé convoquer l'ambassadeur arménien à Tel Aviv pour, je cite, une réprimande sévère. Cette reconnaissance par l'Arménie qui est saluée par ailleurs du côté du Hamas. Sur le terrain de la guerre, toujours pas de cessez-le-feu en vue. Au contraire, au moins 12 Palestiniens ont été tués aujourd'hui dans des frappes israéliennes à Rafah. L'armée israélienne avait pourtant annoncé une pause tactique dans ses opérations au sud de l'enclave palestinienne. Pause qui, selon l'Organisation mondiale de la santé, n'a eu aucun impact sur l'aide humanitaire. Et puis en Cisjordanie, la situation est toujours explosive. Deux Palestiniens ont été tués aujourd'hui à Qalqiya dans une opération de la police israélienne et du Shin Bet, la sécurité intérieure. Quelle place occupe encore la diplomatie dans ce conflit alors que les promesses de trêve ne se sont toujours pas concrétisées? Un acteur important, le Qatar, veut rappeler sa position de médiateur et a réaffirmé ce vendredi vouloir continuer de faire tout pour combler le fossé entre le Hamas et Israël. Une promesse alors que l'Émirat semble avoir perdu de son influence ces derniers mois. Les précisions de notre correspondant régional, Bastien Bory.
Plus de 8 mois après le début de cette guerre, les médiateurs sont-ils victimes de leur succès?
longtemps loués pour leurs services lors des conflits afghans, libyens et tchadiens, les Qataris découvrent en effet au Proche-Orient les limites de leur pouvoir. Depuis 2007, ils ont transféré à Gaza plus de 2 milliards de dollars, sans compter les 30 millions par an destinés à payer le salaire des fonctionnaires gazaouis. Une manière pour le Qatar de maintenir à flot le Hamas et de conserver un moyen de pression sur Israël. Mais aujourd'hui, bien que Doha assure poursuivre ses efforts pour trouver un improbable accord de cessez-le-feu, cette stratégie inefficace se retourne contre son stratège dont l'image se dégrade. D'autant que le Qatar n'est plus seul. Dans le Golfe, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis valident à demi-mot les plans de guerre israéliens et proposent de remplacer le Hamas par un gouvernement dirigé par Mohamed Dahlan, ancien dirigeant de l'autorité palestinienne devenu puissant conseiller du président émirati. Et les Qataris semblent peu à peu s'y résigner, eux qui sortent à peine d'un boycott économique de plusieurs années décrété à l'époque par leurs voisins saoudiens en raison du soutien présumé de Doha au terrorisme islamiste. Bastien Bory dans le Golfe Persique, I24 pour Radio Vatican.
Concernant les tensions, elles, entre Israël et le Hezbollah libanais, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, met une nouvelle fois en garde ce soir contre une escalade incontrôlable. La population de la région et la population du monde ne peuvent pas se permettre que le Liban devienne un autre Gaza, a-t-il lancé tout à l'heure devant des journalistes. C'est désormais officiel, les négociations d'adhésion de l'Ukraine, mais aussi de la Moldavie à l'Union européenne, commenceront mardi prochain. Des négociations qui s'annoncent longues et qui interviennent alors que le pays est en guerre. Rien ne peut empêcher l'Ukraine de réaliser son rêve européen, s'est félicité aujourd'hui le chef de la diplomatie à Kiev, Dmytro Kuleba. Cette guerre en Ukraine a permis à l'OTAN de retrouver sa vocation originelle, celle de se défendre contre une éventuelle attaque venue de l'Est. Elle a aussi poussé des pays traditionnellement neutres, non alignés, à rejoindre l'Alliance Atlantique, comme la Suède, qui avec la Norvège et la Finlande s'est mis d'accord pour créer un corridor de transport militaire en Arctique. Les trois pays scandinaves veulent faciliter l'acheminement de matériel de personnel à travers leurs frontières dans un contexte d'accroissement des tensions avec la Russie. À Stockholm, les précisions de notre correspondante Carlotta Morteo.
Depuis l'arrivée de la Finlande, puis de la Suède dans l'OTAN, la Norvège n'est plus seule face à la Russie en Arctique. L'accord de défense signé entre voisins hier à Bodø représente le premier acte d'un plan de défense commun qui doit permettre de mieux coopérer militairement. Jusqu'à maintenant, les trois pays nordiques avaient chacun pensé leur défense sur un axe nord-sud. Désormais, avec ce corridor logistique, c'est le déplacement ouest-est qui va être développé pour permettre de relier les ports norvégiens à la Finlande via la Laponie. Les trois pays vont devoir identifier ensemble les goulets d'étranglement, mettre à jour leur réglementation et investir dans les infrastructures pour garantir une mobilité militaire rapide dans cette région souvent enneigée où les conditions sont rudes. L'Arctique abrite la puissante flotte nucléaire russe, c'est un espace stratégique. Il s'agit donc d'être prêt en cas de crise dans le Grand Nord, mais aussi au cas où la mer Baltique deviendrait impraticable, c'est le scénario du pire. La péninsule nordique se retrouverait alors coupée du continent européen. Stockholm, Carlotta Morteo pour Radio Vatican.
La Chine durcit encore sa répression vers les indépendantistes taïwanais. Pékin a en effet décidé d'inclure la peine de mort dans de nouvelles directives visant ce qu'elle appelle les irréductibles partisans de l'indépendance de Taïwan et qui inciteraient à la sécession. La Chine qui considère l'île taïwanaise faisant partie de son territoire. La Chine où est arrivé ce vendredi le numéro 2 du gouvernement allemand, le ministre de l'économie et du climat Robert Habeck, qui arrive dans un contexte tendu entre l'Union européenne et Pékin alors que Bruxelles prévoit d'augmenter début juillet les droits de taxes pour les importations de véhicules électriques chinois. Il vient aussi relayer l'inquiétude des milieux économiques de l'industrie automobile allemande. À Berlin, Delphine Herbollier.
Pour une première visite officielle en Chine, Robert Habeck aurait espéré un contexte moins tendu. Impossible en effet d'éviter le sujet qui fâche, à savoir la possible hausse des droits de douane européens sur les véhicules électriques chinois. La Commission de Bruxelles envisage de prendre une telle mesure pour répondre aux subventions massives du secteur automobile par l'État chinois, avec une conséquence, les importations de voitures électriques bon marché made in China ont explosé sur le continent. Pour Robert Habeck, le sujet est très délicat. D'un côté, il prône une plus juste concurrence en provenance de la Chine. Mais il craint aussi, et surtout, des représailles de la part de Pékin, qui sont d'ailleurs déjà à l'étude. Le secteur automobile allemand redoute notamment des hausses de taxes sur les voitures européennes. Pour Volkswagen, Mercedes ou encore BMW, le marché chinois est central. Les chances que Robert Habeck convainque Pékin de ne plus subventionner son secteur automobile semblent quasiment nulles. Il pourrait en revanche obtenir des mesures de rétorsion allégée, un moindre mal, notamment pour une économie allemande qui peine à réduire sa dépendance envers Pékin. Berlin, Delphine Herbollier pour Radio Vatican.
Avant de refermer ce journal, un mot des États-Unis où la Cour suprême américaine autorise le désarmement des auteurs de violences conjugales. Une décision qui ne viole pas le deuxième amendement de la Constitution garantissant le droit au port d'armes, précise la Cour. Joe Biden, le président, salue une décision qui vient maintenir les protections essentielles pour les victimes de violences conjugales. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité tout au long de cette semaine. Demain soir à 18h, vous retrouverez notre émission Vox Mundi. Excellente soirée.